Centrale, ici sonar, j'enregistre une chute d'intensité signale. La cible est en train de changer d'aspect.
Confirmé, la cible amorce une manœuvre.
Alerte sonar, vivant le fou.
On est ici, tous les deux. Toi et moi, comme deux types vraiment ordinaires. Toi, tu fais ton truc, comme tu le sens, et de mon côté, je fais la même chose. Et bien qu'on soit vu face à face. Si je suis là-bas, et si je dois te neutraliser, ça me plaira pas. Mais je le ferai.
Allez l'avertir! Allez lui dire que j'arrive! Dis-lui que j'arrive, putain de merde!
Salut à tous, bienvenue sur l'autre radio. Vous écoutez Le Masque et la Tronçonneuse, l'émission du mois d'avril. Bonjour monsieur Tronçonneuse.
Bonjour monsieur Masque.
Vous allez bien?
Comment allez-vous? Eh ben, je vais je vais peut-être changer de pays.
Oh bah ça.
Je vais bien.
Mais non, faut rester.
Non, je pense que je vais sortir ma tronçonneuse.
Ouais. Ah oui, bah je pense qu'il faut investir dans les bottes de conserve et les fusils de chasse.
Voilà.
Mais bon, c'est comme ça. Voilà.
C'est ouais. C'est beau comme un film sur les présidents.
C'est ça. D'ailleurs, ce sera le thème de l'émission, parce qu'on va, faire un petit tour rapide, un petit tour d'une heure sur les films de présidents, avec des présidents dedans, et on ne parle pas du fromage. Donc, il y a un peu de tout. Il y a de la fiction, des présidents de fiction, il y a des présidents qui ont existé, qui sont représentés dans des films. Il y a des présidentes aussi de fiction, et il n'y a pas de présidente réelle, enfin, ayant existé dans un film, puisque ça n'a jamais existé. Et j'espère que dans un avenir proche, ça n'arrivera pas.
Oh bah bon, oui, c'est ça le problème. Mais c'est comme voilà. Ça. On est dans une émission de cinéma et non pas de politique.
Exactement.
C'est bien dommage. Parce que sinon, il y aurait des choses à dire. Et ben moi, je vais aussi faire comme vous, cher monsieur Masque. Je vais parler de président, mais je me suis dit que comme on était dans un entre-deux-tours et qu'il fallait être prudent, j'ai axé mes choix de films sur les dictateurs. Et je me disais que comme ça, restons dans la fiction.
D'accord.
Moi, j'avais dictateur, de dictature et de risque de dictature. Voilà.
D'accord. Bon.
Et oui, je sais, on était parti sur le président, et je me suis dit, président, dictateur, dictateur, président. Bon, allez, sautons le pas.
Voilà, je me dis juste que vous auriez pu prévenir, parce que j'en ai un peu marre de me faire surprendre, quand même. Mais bon.
Ah, c'est le principe du présidentiel.
C'est vrai. On y croit pas, mais finalement, ce qui était prévu arrive.
C'est ça. Mais je reste dans le temps. Je sais que vous aurez matière à rebondir.
Oui.
Mais on vous surveille. Allez, ouvrez la voie, très cher.
Alors, on peut commencer. Moi, je commencerai par un film où il y a deux films qui m'ont fait penser au président. C'est deux films qui traversent l'histoire américaine et où on voit tous les présidents quasiment depuis la Seconde Guerre mondiale, hein, c'est-à-dire Forrest Gump et puis le majordome. Voilà.
Eh oui.
Et parce que l'image du président, président des États-Unis ou le président de la République française, aux États-Unis, le président est assez représenté au cinéma. En France, c'est plus rare. C'est surtout sur des téléfilms qu'on le voit en fait. Les chroniques historiques, sont plus des téléfilms. Il y a quelques films où on voit le président de la République, un président de la République qui a existé en France. Mais ce sont des petits rôles, voilà. Rien de qui porte le film. Et donc le Majordome et puis Forrest Gump, ce sont deux films où on suit la destinée d'une personne à travers un demi-siècle. Et cette personne-là croise les différents présidents. Dans Forrest Gump, par des effets spéciaux, Tom Hanks croise vraiment tous les présidents. Enfin, vraiment, je le comprends. Vraiment sur fond vert.
Oui.
Et puis dans le majordome, qui est réalisé par Lee Daniels, Forest Whitaker qui joue le rôle du majordome, une personne ayant travaillé à la Maison Blanche pendant une bonne quarantaine d'années, croise les différents présidents qui ont été élus. Alors honnêtement, moi je préfère nettement Forrest Gump qui est une fiction et qui ne s'en cache pas, alors que Majordome a été vendu comme un film tiré d'une histoire vraie, alors que l'histoire vraie c'est juste le pitch de départ, parce que quasiment tout dans le film est faux, à part le nom des présidents justement qui sont incarnés par John Cusack pour Richard Nixon. Il y a Robin Williams qui fait Eisenhower, il y a James Marsden qui fait Kennedy, Liev Schreiber qui fait Lyndon Johnson, Alan Rickman qui fait Ronald Reagan. Voilà. Donc,
c'est cher Alan Rickman. Oui. Oui, dans Forrest Gump, effectivement, les présidents ne sont pas incarnés par des acteurs, ce sont des images d'archives en fait, hein, qui ont bénéficié d'une réincrustation et d'un travail numérique.
Révolutionnaire pour l'époque et qui reste toujours,
ah oui,
toujours
et très, agréable. Reste, très agréable à regarder. Hein. On voit Tom Hanks serrer la main de Kennedy, ou on voit des choses comme ça. C'est super bien fait. C'est en plus, il suffit comme vous dites très peu de choses pour y adhérer, hein, puisque le film nous emmène. Il est très très dynamique. Et à l'époque, c'était effectivement très révolutionnaire. Ouais. C'était. Moi, je me souviens d'un magazine qui s'appelait. Qui est disparu maintenant, mais qui s'appelait SFX. Et à l'époque, je l'achetais, et quand on voyait la manière dont c'était fait, j'étais friand de ça. Voir ces effets spéciaux, c'était quand même très sympa. Après, effectivement, c'est Robert Zemeckis qui est à la manœuvre, et Robert Zemeckis a toujours essayé de surprendre. Donc, toujours très bien, oui. Réussi d'ailleurs, Zemeckis.
Il a, c'est dans ses films que. On retrouve beaucoup de pour la première fois au cinéma, pour la première fois dans Retour vers le futur, il y a un échange entre deux personnages qui sont joués par le même acteur. Ce genre de choses. Voilà.
Dans Retour vers le futur, on voit Donald Trump accéder au pouvoir 40 ans avant.
Oui, oui, oui.
C'est, oui. C'est pas des conneries.
Non, c'est. Oui.
Allô, McFly.
Et puis donc dans Retour vers le futur, dans Forrest Gump, les effets spéciaux, notamment qu'ils jouent dans le vide en fait. Ils serrent la main dans le vide et les incrustations sont vraiment réussies. Ils ont réussi à redonner à Tom Hanks le grain de la vidéo d'origine. Donc ça fonctionne très très bien. Voilà. Et il a même un échange de dialogue avec Kennedy à propos de soda, oui, qui lui donne envie d'uriner. Donc,
voilà. Oui, c'est très très drôle ce passage. Mais effectivement, comme vous disiez, les Américains n'ont aucun scrupule à mettre en scène leur président, y compris dans les situations les plus loufoques, hein, puisque je vous rappelle que le président américain pilote un avion de chasse dans ID4.
Oui, on est, ouais, et d'ailleurs, ça nous avait fait bien rire à l'époque, puisqu'on faisait la comparaison avec notre président, à nous. Donc le film ID4 est sorti en 1994, je crois.
Oui, là, c'est bien possible.
94 ou 96, je pense que c'est 96, parce que c'était, ça devait être Chirac, le président de la République. Et donc, on rigolait en se disant que Chirac, dans un avion, ça fait bien marrer tout le monde. Sauf que Chirac a vraiment participé à la guerre d'Algérie. Pas contre des extraterrestres, mais il était mobilisé là-bas. Alors que W. Bush a fait la guerre du Vietnam dans une base aux États-Unis. Mais non, oui, le président des États-Unis sauve le monde, mais il sauve le monde plusieurs fois. Il y a aussi le nanardesque Air Force One de Peterson avec Harrison Ford, où Air Force One est pris en otage par un Gary Oldman qui a rarement été aussi mauvais, et il va être son plan va être déjoué par un Harrison Ford qui a jamais aussi bien endossé la bannière étoilée. Le film est assez merdique en fait, mais il surfe sur une vague de films de l'époque de prise d'otage en avion, de président, il y a Passager 57, il y a plein de choses comme ça. Il y a Ultime Décision aussi avec Kurt Russell et puis Steven Seagal.
C'est vrai, j'avais oublié celle-là. Tiens, oh là là. Ouais. Pardon.
Qui est quand même pas si mal que ça, pour le coup, Ultime Décision. Ouais, surtout qu'il y a un bon effet de surprise. Maintenant, il est éventé, mais voilà. On va divulgâcher, mais Steven Seagal meurt au début. Ce qui est quand même pas. Normalement, il meurt pas. On n'est pas sûr qu'il meurt, il tombe de l'avion. Comme on est sans Steven Seagal, il peut s'en sortir.
Oui, Steven Seagal s'en sort toujours. Voilà. En fait, c'est un film qui crée un faux espoir. Steven Seagal meurt au début du film.
Ah oui,
et là, on est suspendu en disant, c'est vrai, sérieux. Et non, en fait. Ah ouais. Merde, c'est un mauvais film.
Après, dans les emplois un peu rigolos, entre guillemets, du président américain. Il y a quand même tous les films à la Gérard Butler, La Chute 2, La Chute de la Maison Blanche, La Chute de Londres, et puis La Chute de je ne sais plus quoi, qui sont...
Dans l'escalier, je crois.
La chute dans l'escalier, c'est possible,
ouais. Parce qu'à un moment donné, il faut faire gaffe. Non, bien sûr, mais le président des États-Unis, en fait, le fameux POTUS, c'est presque aux États-Unis un personnage de fiction. D'ailleurs, à chaque fois, c'est un storytelling, les élections. Donc, ce sont des personnages à part entière. Puis, jusqu'à parfois la parodie, hein, comme nous a pu, comme je ne sais plus comment s'appelle l'acteur, mais celui qui jouait Donald Trump, voilà quoi.
Oui.
Ah non, c'était un vrai président peut-être. Ah, je sais. Alors effectivement, c'est vrai qu'aux États-Unis, on a des présidents et on a de l'anti-présidentiel. Alors moi, je pense à l'acteur qui joue Borat, Sacha
Baron Cohen.
Baron Cohen, merci Baron Cohen, qui lui a réussi aussi à faire des films où à la fois, notamment la suite de Borat, à la fois où il se fout ouvertement de la gueule du président américain et de ses consorts, mais surtout il a fait un film qui est très sympa, moi j'aime beaucoup en fait, c'est The Dictator, qui plonge un dictateur absolument horrible dans un qui en fait comme tous les dictateurs vit dans une espèce de bulle où la réalité est complètement reconstruite et qui se retrouve confronté à la vie réelle où personne ne le reconnaît et surtout où il a aucun pouvoir, et ça c'est très très drôle parce que ça crée des situations complètement folles sur le plan visuel comme sur le plan scénaristique. Alors ça reste du Sacha Baron Cohen, hein, parfois c'est un peu lourd, hein. mais c'est amusant. Et c'est son, et en fait c'est son, ça va être son sosie qui va finalement prendre le pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait il y a un échange entre le vrai dictateur et le sosie parce qu'il a des sosies pour éviter de se faire assassiner. Et à un moment donné on va le prendre pour le sosie alors qu'il est le vrai dictateur. Donc en fait ça crée un espèce d'échange de position et de place qui est très très drôle. D'ailleurs, le film était dédié à la mémoire de Kim Jong-il, il faut le dire. Voilà. Donc, bon. C'est un film qui date de... qui n'est pas très vieux, hein. Il date de 2012. Hein. Ça, c'est pas très vieux. Si, quand même.
Ah oui, quand même. Ouais. Mais on vieillit de plus en plus vite.
Ah ouais, c'est vrai.
C'est pour ça. C'est vrai. Pas trop passe... 5 ans, ça passe vite.
Et donc voilà, c'est un film qui m'a bien fait rire quand il est sorti et qui m'a bien fait rire en le revoyant. Parce que quand on le revoit, en fait, il y a vraiment des séquences où on se dit mais c'est très bien vu, c'est très bien pensé. C'est un peu comme l'histoire de Biff qui devient président des États-Unis dans Retour vers le futur. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont presque comment dire. Qui sont presque des situations lues dans une boule de cristal tellement elles sont logiques dans le déroulement historique. Enfin, il a une façon d'écrire qui le mot m'échappe, l'adjectif m'échappe, c'est pas grave.
Oui, ça s'est bien senti parce que bah clairement il y a certaines scènes, notamment une parade dans le dictateur qui fait clairement penser au séjour de Kadhafi à Paris pendant, je crois c'était il devait rester 2 jours, il devait rester 5. Il emmerdait tout le monde, et il savait très bien qu'il emmerdait tout le monde, donc là, on allait profiter. Je sais pas, peut-être une histoire de gros sous derrière. Et ça ressemble un peu à ça, et puis ça fait aussi penser à un moment... c'est de la parodie, mais c'est de la parodie comme hardcore avec Sacha Baron Cohen, et c'est souvent le cas. Il y a aussi un moment à l'ONU, l'Arabie Saoudite qui a présidé une commission liée aux droits de l'homme ou des choses comme ça. Enfin, des fois, la réalité est pourrait, s'il n'y avait pas de violence derrière, pourrait être bien plus drôle que la fiction, quoi.
Voilà. C'est ça. Ah oui, complètement. C'est visionnaire. Assez, merci, j'ai retrouvé mon mot.
Voilà.
Complètement.
Il y a, quand tu parles du dictateur, qui est sorti en 2012, moi, il y a un film aussi qui m'a un peu épaté. C'est W, l'improbable président, d'Oliver Stone. Pour plusieurs raisons, déjà le film.
Tout à fait, ouais.
Déjà, le film n'est pas si mal que ça, je trouve. Et ensuite, le film est sorti en 2008. Ça, c'est comme une force des Américains, ou en tout cas des Anglo-Saxons, par rapport à la fiction. C'est que le film est sorti en 2008 et George Bush était toujours en fonction. Voilà. Et même si le film est quand même plutôt bienveillant à l'égard de George Bush, il égratigne un petit peu quand même. Et en France, c'est relativement inimaginable de faire une chose comme ça, puisque ce serait forcément la gloire de la personne aux manettes, puisque c'est toujours comme ça, en fait. Voilà. Il y a un roman historique à construire.
Oui, il y a des choses. C'est vrai qu'en France, on peut avoir du mal à faire. C'est rare les topos du vivant des personnages, déjà. De manière générale, là, sans parler des présidents. Et on a du mal avec cette histoire présidentielle, hein, puisque souvent, quand on commence à faire des films sur un président, il y a une espèce de levée de bouclier, parfois même à distance. Hein, je pense notamment au film avec Bouquet sur Mitterrand. Enfin, c'est quelque chose d'hyper sacralisé. Il faut pouvoir faire ce devoir, enfin, cet exercice, en fait. À la fois pour prendre de la distance et prendre un peu de hauteur. Et puis bon sang, il ne faut pas oublier que ces gens-là, qui sont quand même la plupart du temps hors sol, c'est jamais que des humains comme nous, quoi. Et on ne peut pas en faire des espèces de monstres sacrés qui en coûtent.
C'est ça. Il y a une tentative comme récemment avec Anne Fontaine, ce qui était assez... assez intéressant d'ailleurs dans la démarche.
Tout à fait.
Puisqu'il y avait Jean Dujardin qui incarnait Nicolas Sarkozy.
Oui.
Et puis Hollande qui était incarné par Grégory Gadebois avec Dora Pilier, ouais. et puis aussi Denis Podalydès.
Un film sorti d'ailleurs un petit peu de manière en 2021 de manière confidentielle un peu quand même.
Oui, bah. Il y avait le Covid
critique. Mais
Oui, moi je ne l'ai pas vu. J'ai vu des extraits et je trouvais que Dujardin était bien plus beau que Sarkozy et que ça le rendait drôle. Alors que Sarkozy, il était pas. Enfin, le personnage est relativement ridicule quand même. Après, je suis pas objectif, mais il est quand même relativement ridicule et assez comment. Bon, allez, on n'a pas peur des mots, mais assez malfaisant, en fait. Donc, voilà, c'est pas ténueux, ouais. Et donc, ça faisait un peu bizarre, mais l'expérience est intéressante. Parce que pour une fois, deux présidents récents étaient intégrés dans une fiction. Je trouve ça plutôt marrant. Voilà.
Ah, bah, l'idée est plutôt bonne, ouais.
Ouais.
Tout à fait. Bon, c'est un film qui a eu une bonne critique, enfin qui a eu un bon accueil critique, on va dire, hein, mais qui a pas eu probablement, oui, effectivement, en plein Covid, le succès mérité, ou en tout cas le public mérité. Il y a eu quelques. Je crois que c'est un film qui a rapporté quelque chose comme 3 millions de dollars au niveau de l'exploitation mondiale. C'est pas ouf, quoi.
Non, et puis bon, il y a... C'est dommage, le Covid aura quand même eu la peau de beaucoup de films très intéressants, puisque.
Bon, pas que des films, je pense, de beaucoup de salles aussi, ouais.
Oui, de salles, ouais, public. Après le Covid, il y a eu les embouteillages avec des films qui restaient quelques jours à l'affiche, et puis il y a eu une deuxième fermeture qui, pour le coup, était plus. Enfin, bref, voilà. Après, au niveau de la fiction présidentielle en France, moi, il y a un film qui m'avait marqué, qui commence à dater parce qu'il a. Il a bientôt 16 ans. C'est le film Président de Lionel Delclenque.
Avec Dupontel.
Avec Dupontel qui est impeccable dedans. Voilà. Et qui incarne.
Et puis l'intrigue est terrible. Enfin, elle est redoutable, cette intrigue, effectivement. Ouais, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Et qui m'a laissé sur le cul. Et à l'époque, on ne pouvait pas faire autrement que faire un rapprochement avec notre président. De l'époque, qui je crois était Sarkozy.
C'était Sarkozy, ouais. C'était Sarkozy.
Et le parallèle était évident.
Enfin, le film est sorti un petit peu dans la campagne. Il a été tourné pendant le mandat, la fin du mandat de Jacques Chirac. Et je me rappelle que les affiches de campagne de Nicolas Sarkozy ressemblaient étrangement aux affiches de campagne de président du Pontel. C'était un hasard, hein, c'est pas un souci. Mais elles ont paru en même temps, sachant que celle du film était plus ancienne que celle de la campagne présidentielle.
Oui, mais l'intrigue ne laissait aucun doute sur l'inspiration.
Oui, même si le président qui est dans le film, a priori, c'est plutôt un président de centre-gauche.
C'est pas vraiment enfin, avec des méthodes de barbouze quand même, parce que
des méthodes de barbouze, mais un président qui présente bien devant les caméras, mais qui dans hors champ est quelqu'un de très très dur en fait. Il n'y a qu'à voir comment il essaie de récupérer sa fille.
Oui, c'est
à la minable. Fin. Voilà.
Tout à fait. Ouais. Donc. Effectivement, enfin moi, je me souviens à l'époque l'effet que m'avait fait ce film, c'était de me dire qu'effectivement l'inspiration était évidente, sans me douter derrière que on aurait pire en fait. Enfin, je suis désolé de dire ça, mais on a quand même un président qui a attaqué un pays juste pour éviter qu'on apprenne que ce pays avait financé sa campagne. Ça a été quand même pas rien.
Oui.
On peut en dire ce qu'on veut. La méthode est brutale. Et le mobile est fallacieux. Mais effectivement, ce film-là, j'aime beaucoup Dupontel. Alors, je ne vais pas être très objectif parce que un mauvais film avec Dupontel, ça reste un bon film. Mais effectivement, et puis c'est une époque aussi où Dupontel changeait de registre. On l'avait vu en président, il était aussi, il avait aussi incarné ce convoyeur de fond.
Dans le film de Nicolas Boukrieff, ouais.
Ouais. Qui partait en vendetta. Enfin, il changeait. On avait un Dupontel qui était un peu fou à l'écran dans des films comme Bernie, comme Le Créateur, etc. Et là, d'un seul coup, on tombait sur un type qui était capable de jouer, et tant mieux, des rôles extrêmement graves, extrêmement durs. Voilà. Avant de découvrir.
Ouais, Et entre ses films, il enchaînait pas mal de films en tant qu'acteur simplement, assez sérieux. Je sais pas, le Convoyeur c'est 2004, donc 2 ans avant. Il y avait aussi les Clés de bagnole, donc, que j'adore. Peut-être parce que c'est un film qui a disparu, mais c'est un film que j'aime bien. Et puis autrement, L'ennemi intime aussi, Florian Emilio Siri, qui est un très très bon film, hein, qui date de 2007. Enfin, toute cette période-là, il ne fait pas que des comédies, en fait. Il y a Irréversible en 2002.
Voilà. Il y a deux jours à bouleversant, quoi. Enfin,
oui.
C'est extraordinaire, ce film.
Ah oui, ce film est vraiment...
Qui m'a vraiment, vraiment scotché, quoi.
C'est oui.
À la fois grave, à la fois dur, et en même temps... une espèce de d'urgence dans ce film.
Ouais. Une grande tendresse pour...
Oui, tout à fait, il y a beaucoup de tendresse.
Pour ce personnage et pour ses proches, en fait.
Ça reste poétique. Ouais, ça reste poétique, oui. Ouais.
Bon, enfin, bref, Dupontel, c'est... Je pense que... Nous, avec Tom Hanks, il doit être dans le top 2 des meilleurs acteurs du monde. Voilà. Mais... voilà. Mais c'est un top qui bouge tout le temps. Voilà.
Mais ça, ouais, bien sûr. Après, c'est un très bon réalisateur. C'est quelqu'un qui a montré sa capacité à réaliser des comédies pendant très longtemps. Et puis, d'un seul coup, on a ce truc complètement dingue qui nous arrive Au revoir là-haut, là, où il montre une maîtrise du cinéma qui est extraordinaire. Bon,
oui.
C'est Dupontel président.
Exactement. On va peut-être se faire une petite pause musicale.
Eh bien, j'allais vous le proposer, cher monsieur Mas. Qu'est-ce que vous nous proposez d'écouter?
Je vous le dirai après, quand monsieur le programmateur aura mis le truc et que je l'aurai reconnu. Mais on peut mettre, je sais pas quoi, en fait. LCD Sound System, par exemple. Don't you
Il faut combler les vides ou pas?
Retour, c'était Dépêche Mode.
J'ai envoyé un petit message. Ah, c'est bien ça. J'ai envoyé un petit message à notre programmateur musical pour la prochaine pause. Voilà.
Pourquoi t'as envoyé des titres toi aussi?
J'ai envoyé une proposition musicale.
D'accord. Non, mais moi j'ai préparé.
Mais au fait, on parlait de. Ah, d'accord. Donc, j'étais pas très sûr.
J'envoie un message au programmateur, mais je pense que le prochain, ça va être Voyeur. Mais bon, après.
Ah, d'accord.
Voilà. Bon.
À voir. Eh bien, pour revenir à nos histoires de président, cher ami, sur l'autre radio, puisque c'est une radio qui traite de l'actualité, on est d'accord?
Oui.
Je pensais peut-être soumettre un film que moi, j'ai beaucoup aimé, qui n'est pas un film de président, mais qui est un film didactique. Sur ce que pourrait être une présidence, je mets des guillemets de chaque côté, qui n'en serait pas une, c'est La Vague. C'est un film allemand que j'ai beaucoup aimé, hein, qui est sorti en 2008. Un film de Denise Gansel, je ne sais pas si je prononce bien, de toute façon il ne nous écoutera pas, je pense, avec Jürgen Vogel, Frédéric Lowe, Max Reimelt et Jennifer Ulrich. C'est un film qui est inspiré en fait d'une expérience qui avait eu lieu à Palo Alto dans les années 60, en 67 je crois, et où
une expérience controversée pour le sérieux de son déroulement. Alors, et puis voilà.
Oui, mais qui a été reproduite à plusieurs reprises. Donc, elle a été. Faut savoir que Palo Alto, c'était à l'époque une usine à expérience sociologique, en fait, l'école de Palo Alto, hein, comme on disait. Donc, il y a eu des expériences, effectivement, qui ont été controversées, mais celle-ci est intéressante puisque, pour expliquer, en fait, alors ça, c'est le pitch du film, hein, qui est situé de nos jours, d'ailleurs, hein, il n'est pas situé dans les années 60. C'est une expérience qui a eu lieu aux États-Unis, qui est retransposée en Allemagne pour de bonnes raisons. De nos jours, un professeur de lycée qui décide de faire en fait une expérience didactique pour leur expliquer ce que peut être un régime autocratique en créant une espèce de jeu de rôle dans lequel on construit une communauté autour d'un symbole, d'un salut, d'un uniforme, des valeurs, des notions simples en fait. De valeur et de discipline, et de regarder comment les choses évoluent, et inexorablement, d'elles-mêmes, elles évoluent vers une autocratie, vers une dictature plus exactement, dans laquelle effectivement l'intolérance de différence est clairement criante, et ça va jusqu'à, enfin, l'expérience échappe d'ailleurs à celui qui l'initie. Et on a en fait ce qui peut se passer dans un régime autocratique ou dans une dictature, ou dans ce que peut nous proposer certains programmes électoraux qui se veulent patriotes et défendant des valeurs. Il faut parfois se méfier de l'idée d'une identité forte voilà, qui se coupe de la différence. Je n'irai pas plus loin, mais en tout cas, ce film est très didactique et son déroulé est intéressant. Parce que, en fait, alors le film en lui-même, tu me contrediras peut-être, cher monsieur Masque, mais ce film, je pense, est didactique pour un public très particulier. C'est un public peut-être jeune adulte, ado.
Plutôt jeune, oui.
Nous,
ouais.
Adultes, voilà. Adultes, on voit bien les rouages du truc se mettre en œuvre et on n'est pas trop surpris. Mais l'identification comme jeune adulte à ce groupe de lycéens qui va se laisser embarquer dans ce truc-là, et au départ, on va leur trouver des excuses, parce que c'est l'idée, en fait, c'est de voir ce truc mettre en place et puis de s'apercevoir que certains dérivent. Oui, mais ils ont peut-être un peu raison, parce qu'il faut ramener les éléments un peu, les électrons un peu dans le rang, etc. Et plus ça va, plus ça devient gênant et plus ça devient dérangeant, en fait. Et que sous couvert de valeur, on va mettre des guillemets autour, parce que voilà, enfin de valeur égalitaire, on arrive à quelque chose qui est totalitaire.
Oui.
Et c'est un film qui, enfin moi, qui a été une bonne surprise quand je l'ai vu. Voilà, c'est. Il y a eu plusieurs expériences. Hein, je disais 1967, mais c'est, enfin dans les années 70, elle a été reprise à plusieurs fois cette expérience en fait.
Ouais.
Mais... Elle avait été d'ailleurs décrite en 81 dans un livre de Todd Strasser.
Oui, parce que l'expérience de base, je crois que c'était dans une université américaine où la moitié des étudiants étaient désignés comme des prisonniers et l'autre moitié comme des gardiens. Et en fait, les gardiens avaient certaines attributions et les prisonniers étaient des prisonniers. Et ils se moquaient un peu des gardiens, ce qui fait qu'au bout d'un moment, les gardiens ont commencé à être violents avec les prisonniers. Voilà. Mais l'expérience,
comme je disais,
il y a eu d'autres expériences comme ça, ouais. Moi, ça me fait penser à dont j'avais pris connaissance comme ça, j'ai plus trop le détail, où c'était des personnes qui étaient, par exemple, l'expérience dont j'avais entendu parler, c'est des personnes qui étaient foncièrement opposées à la peine de mort, à qui on demandait d'argumenter pour la peine de mort. Voilà. Et qui développaient tout un argumentaire pour la peine de mort et qui, au final, arrivaient à s'auto-convaincre de ce qu'ils écrivaient, en partie en tout cas. En tout cas, faisaient évoluer leur point de vue par rapport à la peine de mort. Ouais.
Voilà. Oui, parce que souvent, on dit que pour convaincre, il faut être convaincu.
C'est ça.
Et ça, c'est un mécanisme bien connu hein, de la psychologie humaine. Il y a eu des expériences similaires d'ailleurs dans une école où l'institutrice est arrivée en disant que les enfants qui avaient les yeux bleus apprenaient mieux que les autres. Et au bout d'une semaine ou plusieurs jours, elle s'est rendue compte qu'effectivement, il y avait une diminution des résultats chez les enfants qui n'avaient pas les yeux bleus. Et elle est revenue en disant « Je me suis trompé, c'est les blonds. » Et paf, elle a pu observer la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, c'est intéressant aussi de voir comment le groupe peut, en fonction des éléments, des arguments d'autorité, on va dire, qui leur sont donnés, peut se convaincre d'être ce qu'ils ne sont pas. C'est des ressorts très connus. Hein.
Oui.
En tout cas, si vous n'avez pas vu le film qui est daté, hein, qui est 2012, ça reste un bon film à voir pour bien voir un peu tous ces mécanismes-là qui commencent à être bien connus aussi. Mais en cette période un peu trouble, ça fait pas de mal de se rappeler les choses.
Oui, et ça fait un peu penser aussi au film Idiocratie.
Oui, tout à fait. Exactement.
De l'autre côté, puisque Idiocratie, c'est une comédie que j'ai vue très récemment, puisqu'elle est disponible sur de mémoire sur Disney+. Et c'est Planète Stupide en VF, en VO, pardon. C'est l'histoire du personnage qui est interprété par Luke Wilson, qui est un personnage tout à fait un mec qui aime pas tellement son travail. Mais qui fait son taf, il est bien planqué dans les archives, et donc on lui propose de participer à une expérience de cryogénisation dans un service, sauf que le responsable du service de mémoire, c'est un pervers, c'est un pervers, c'est quelqu'un qui va facilement voir les filles, et donc le service est fermé, on oublie que Owen Wilson est une autre cobaye sont dans les caisses de cryogénisation. Et donc, il se réveille, je crois, c'est 60 ans ou 300 ans, 300 ans plus tard, dans un pays qui est complètement complètement, enfin, les gens sont complètement idiots quoi, et débordés par leurs déchets. Ils regardent la télé en bouffant et ils jettent leurs emballages là où ils sont. Et voilà, ils se réveillent au 26e siècle. Hein.
Voilà. C'est ça. C'est un film très drôle. Hein. Ça reste drôle. Mais en même temps, c'est enfin, ça fait partie de ces films-là qui nous font rire et qui nous font penser que bah, quand même, c'est pas complètement faux. Ils font un peu flipper. Heureusement que c'est drôle. Ouais. Pas flipper.
Bah, ils font un peu flipper parce que le film, il est 2006, donc il a 14 ans. Il y a 14 ans, c'était une grosse comédie. On se dit, ouais, c'est rigolo, quoi. Et puis 14 ans plus tard, on se dit, c'est qu'un ressenti. Mais on se dit, mais on y va, quoi. On y va tout doucement. Il y a 14 ans, on aurait dit Hanouna animera une soirée électorale. Personne n'y aurait cru. Et on y est. Je sais pas quel candidat prendrait un peu de nouilles dans son slip, mais je serais pas là pour regarder. Mais bon. Et donc le film est très drôle pour ça, parce que en fait c'est de mémoire, c'est une marque qui gère le monde, une marque de soda en fait, qui produit tout, et les gens ne font plus rien par eux-mêmes.
Voilà. Oui.
Et comme ils savent plus trop lire, ils savent plus trop réfléchir, tout est par pictogramme. Et par icône.
Exact, oui, c'est voilà. Complètement, oui, je me souvenais plus de ça, mais c'est vrai. C'est très très drôle d'ailleurs, parce que c'est ce qui fait qu'on se dit que bah non, quand même.
Ils sont tous habillés en jogging, c'est en tenue de sport. Enfin, en tenue de sport, mais il n'y a personne qui fait du sport. Et le gros défouloir, c'est prendre un condamné et puis le mettre en concurrence avec dans une petite voiture face à un monster truck où il va se faire vaporiser, quoi. Et personne ne sait plus faire pousser des plantes. C'est pour ça que quand le héros leur dit de mettre de l'eau dessus et que le résultat n'est pas immédiat, il est condamné. Parce que ça arrive pas tout de suite, quoi. Donc,
ça, c'est bien vu aussi, parce qu'on est vraiment dans cette espèce de monde. De monde où tout doit être immédiat. Enfin, il y a un truc, c'est l'instantané, c'est les SMS, c'est du Snap, c'est du Twitter, c'est action-réaction, tout est dans l'émotion.
C'est ça. Et donc le héros qui est pas spécialement un génie, hein, qui est un monsieur tout le monde, bah, il va finir président des États-Unis parce que avec le peu de connaissances qu'il a, il en est déjà beaucoup plus que les autres, quoi. Voilà. Et l'émission préférée, on reparle d'Hanouna, mais l'émission préférée des gens, c'est quand même dans ce film l'histoire d'un mec qui arrête pas de se prendre des coups de pied dans les burnes.
C'est pas faux. Voilà. Mais on est sur des films qui ont pu à un moment donné nous faire marrer, qui maintenant, quand on les revoit, nous fait rire un peu jaune, quoi. On y voit moins de l'humour que d'un film presque documentaire, quand même. Un autre film dans le même genre d'ailleurs qui m'a beaucoup fait rire, mais c'est Interview, qui est un film réalisé notamment par Seth Rogen, hein, qui comme d'habitude invite ses copains, hein, donc là c'est James Franco, un film de 2014 où une équipe décide d'aller interviewer des célébrités et pour le 1000e épisode se disent que Kim Jong-un serait il est déjà Kim Jong-un est un amateur de leur émission, donc serait un bon sujet d'interview, et donc il propose une interview télévisée. Et en parallèle, il y a un agent de la CIA qui est joué par Lizzie Kaplan qui va leur proposer en fait de profiter de l'interview pour l'assassiner. Et forcément, ils acceptent contre-cœur. Et tout ne se passe pas aussi bien que prévu. Il y a quelques séquences quand même qui sont... Alors, ça reste du Seth Rogen. Hein, moi, enfin, j'aime bien Seth Rogen, même si je trouve que des fois, c'est un peu potache. N'ayons pas peur des mots. Mais c'était un film qui était franchement drôle. Bon, clairement, qui se fout bien de la gueule de Kim Jong-un, au passage, mais...
Ça lui a pas plu, d'ailleurs.
D'ailleurs, le... Non, il avait très mal réagi, mais bon, c'est pas grave. Il avait très mal réagi à la bande-annonce, en fait. Il a demandé à l'ONU de sévir contre James Franco et Seth Rogen. Il avait quand même... Enfin, c'est très fort, quand même. C'est là où tu te dis que le mec, il n'est pas dans la réalité, quoi. Ah oui, le porte-parole a déclaré ainsi: il y a ceci d'ironique dans l'intrigue qui démontre le désespoir du gouvernement aux États-Unis et de la société américaine. L'assassinat d'un leader étranger renvoie à ce que les États-Unis ont fait en Afghanistan. Et n'oublions pas qui a tué Kennedy, a dit Kim Jong-un. Enfin,
Oui.
C'est quand même marrant. Bon, bref. Ils ont même publié un communiqué de presse en 2014. Voilà. Comme quoi, le second degré n'est pas donné au monde et surtout pas au dictateur.
Non, non, non. Et pourtant, son père, donc c'était Kim Jong-il,
Ouais.
il avait a priori une vidéothèque assez impressionnante et il adorait les films avec Stallone. Voilà.
Ah ouais,
Et
c'est marrant.
il adorait ça. Mais en même temps, bon, bref, c'est un peu spécial quand même, les Kim. Alors moi j'ai deux autres films qu'on pourrait si on peut sans transition j'ai deux autres films qu'on pourrait coupler qui m'ont beaucoup plu, c'est X-Men Day of Future Past et X-Men Origin, non je veux dire X-Men Origin pardon, et puis 13 jours, donc
Ah oui, on pourrait les
X-Men au
coupler.
commencement,
D'accord.
voilà. Et 13 jours qui qui sont après, enfin, qui montrent un peu ce que la fiction, on va dire la fiction américaine est capable de faire, c'est-à-dire de créer un film complètement de fiction, complètement hallucinant avec des super-héros, avec une trame qui se situe sur des faits historiques, et puis un autre film, 13 jours, qui raconte justement ces faits historiques de façon tout à fait sérieuse, et les deux films, pour moi, ils sont très très réussis. Ils sont pas de la même époque. Hein. X-Men Le Commencement a relancé la franchise X-Men en 2011,
Qui s'est
donc il
soutenu un
racontait
peu.
le début de ce qu'on avait vu avec Bryan Singer. Là, le film était réalisé par Matthew Vaughn, avec pour la première fois James McAvoy et Michael Fassbender dans les rôles de Professeur Xavier et comment Magneto.
Bientôt.
Voilà, avec Kevin Bacon aussi qui fait un méchant assez détestable. Dans ce film, il joue Sébastien Shaw, un mutant qui a la capacité d'emmagasiner et de relancer l'énergie qu'il reçoit, donc qui est assez terrible. Et donc le film se conclut sur pendant la crise des missiles de Cuba, avec les super-héros sur une île et l'armée américaine et la marine américaine et la marine russe qui se font face. Voilà.
Voilà, 1962, hein, la crise de Cuba.
C'est ça. Et le film est assez réussi. Moi, je trouve ça. J'aime assez les œuvres quand elles sont. J'aime assez quand une œuvre de fiction, tu sais très bien que c'est de la fiction, ils se moquent pas de toi en essayant de te vendre des choses, voilà. Mais ils t'incitent aussi peut-être à aller voir un peu ce qui s'est vraiment passé dans la véritable histoire. Les déroutes des
Oui,
choses, c'est ce
ben.
qui s'est vraiment passé, parce que si on se réfère à l'horloge de l'apocalypse qu'on voit dans pas mal d'œuvres, à ce moment-là, on était quand même très très près de minuit, quand même.
Oui, tout à
C'était pas très loin. Voilà. Et ça se mélange bien avec l'histoire des mutants. Et le film est très très réussi. Et quelques années plus tôt, j'avais vu, alors là c'était en vidéo, parce que je ne suis pas sûr qu'il soit sorti au cinéma. S'il est sorti au cinéma en 2001, mais moi je l'avais vu qu'en DVD, c'est 13 jours de Roger
Eh oui.
Donaldson avec Kevin Costner, Bruce Greenwood. Kevin Costner qui joue le conseiller spécial du président et Bruce Greenwood qui joue le président Kennedy. Et le film est très très bien. Parce que.
Oui, tout à fait.
C'est
Bah, c'est un thriller, hein. Enfin,
un thriller et c'est
c'est
un des
tourné comme un
premiers.
thriller.
Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui est assez rigolo dans la filmographie, je trouve, de Kevin Costner, c'est qu'il a quelques films très connus, il a beaucoup de navets et il a quelques films plus confidentiels qui sont excellents. Dont celui-ci que je conseille vraiment vivement, qui est pour moi un film très réussi, même si ça a été un bide au cinéma.
Et c'est dommage, hein. Mais je pense que c'est un film qui est encore très, malheureusement, avec les faits récents, qui reste d'actualité, en fait. Hein, parce que, enfin, quand on voit la manière dont le conflit en Ukraine peut se passer, moi, j'ai un peu de temps avant que vraiment ça se déclenche. ça m'a fait penser à la baie des cochons, donc à la crise des missiles de Cuba.
Oui.
Où il y a eu une espèce de montée en puissance comme ça, celui qui aura le plus gros missile entre l'OTAN et la Russie. Et je me suis dit, bah, la baie des cochons, quoi. Sauf que là, on a dépassé ce stade-là, en fait. On sent bien que pendant plusieurs semaines, et probablement encore, on était on the edge, hein, on était sur le fil du rasoir, où ça peut basculer à tout moment.
Oui.
Alors, bah, puisque tu es dans les faits un peu historiques comme ça, moi j'avais aussi envie de parler d'un film moi que j'ai vu il y a longtemps, que je reverrai avec plaisir, je pense. C'est Il pleut sur Santiago, qui est un film de 1975 et qui va parler de la chute du Chili en 73, hein, lorsque Pablo Neruda et Allende, d'ailleurs, disparaissent au fil de Pinochet.
Le 11 septembre, d'ailleurs.
C'est ça. Et septembre 73, absolument. Quelle mémoire.
Le 11 septembre, bah, c'est pour les 20 ans que j'avais entendu ça, c'est que le 11 septembre 2001, la démocratie américaine était attaquée. Et le 11 septembre 73, l'Amérique foutait en l'air une démocratie.
Eh
Ouais.
c'est ça. Un film, alors c'est un film avec un casting aussi extraordinaire. Hein. On y retrouve Annie Girardot, on y retrouve Jean-Louis Trintignant, pardon. Un chouette film hein, qui est grand. Enfin, là, clairement, on quitte le domaine de la comédie. Hein. On est sur un film historique. Voilà. Avec cette prise de pouvoir et puis effectivement cette agitation pour que un général Pinochet renverse un démocrate, Allende, qui d'ailleurs enfin n'a pas été exécuté mais s'est suicidé
Oui, dans son bureau, je
avant de
crois.
recevoir les dans son bureau avant de se faire descendre, bien sûr. Et c'est un film qui a été réalisé par Elvio Soto.
Et ce qui est étonnant, c'est un financement, un financement, la production est franco-bulgare aussi. Ce qui pour l'époque est assez, je pense, assez cocasse quand même. Voilà.
Oui. Et pourquoi pas? En tout cas, voilà, le film est très, voilà, très sombre. Hein. Et puis sur une note peut-être un peu plus, revenons à quelque chose de plus léger, mais tout aussi dramatique, si tu me permets, il y a un autre film qui pour moi est un film qui traite de dictature et de président d'ailleurs, hein, de manière à la fois légère et grave. C'est un chef-d'œuvre pour moi intemporel. Qui s'appelle Le Dictateur, un film de 1940, réalisé par Chaplin. Un film qui traite un petit peu aussi, d'ailleurs curieusement, de la même situation que le film de Sacha Baron Cohen, puisqu'il s'agit aussi d'un dictateur qui n'est plus ni moins qu'une représentation d'Hitler, hein, ne nous mentons pas. Qui se fait usurper pardon, son identité par un barbier juif qui lui ressemble et qui va tenter de renverser cette dictature qui est un rouleau compresseur génocidaire. Il faut resituer le film dans son contexte. On est en 1940, c'est-à-dire que les États-Unis sont pas encore entrés en guerre. Et la vision de Chaplin sur Hitler est extrêmement éclairée. Ce qui
Oui.
fait sincèrement penser que quand les Américains disent oui, mais on ne savait pas trop, ils savaient très très bien ce qui se passait, parce que tout y est, quoi. Que ce soit les programmes, que ce soit tout ça, enfin tout est clairement planifié jusqu'à la solution finale, quasi démontrée enfin, montrée du doigt. Le film enfin, a eu du mal à sortir. Il faut l'avoir, il est de 1940, je crois qu'il est sorti un an plus tard. Bien sûr, il n'est pas sorti en France
Il est sorti un
tout
peu
de
plus
suite. Hein,
tard en
il est
France.
sorti... Ouais. Et il est sorti en 1945 en France. Voilà. En Italie, il est sorti encore un peu plus tard. Et en Allemagne, n'en parlons pas, il est sorti en 1958.
Oui.
c'est normal. Ça se comprend. Hein. Voilà. Un film qui est très connu notamment cette espèce de guerre d'ego dans les fauteuils du barbier entre Mussolini et Hitler. Entre ce discours qui est complètement fou.
Avec les micros.
Avec les micros, oui, tout à fait. Qui voilà. Ou la manière dont Hitler peut jouer avec ce globe dans son bureau jusqu'à le faire exploser, quoi. Enfin bon, c'est ce film. Enfin bon, Charlie Chaplin, on reviendra pas dessus. C'est un réalisateur extraordinaire pour beaucoup de raisons. Mais pour moi, ce film-là est vraiment fabuleux, quoi. Enfin, il est lui aussi d'ailleurs. Et puis ne nous trompons pas, hein, dedans, c'est pas Charlot, hein, c'est le barbier juif, puisque Charlot est mort avec les temps modernes. Mais voilà, ce dictateur de Thomenia, hein, Adenoïde Inkel, pour moi, est une mémoire toujours très très vive de ce que le cinéma peut donner de signaux d'alerte sur l'état du monde, en fait.
Oui, et puis la justesse de son propos, et puis le côté ridicule de ces gens qui se prennent très au sérieux avec, comme tu disais tout à l'heure pour le film La Vague, leurs symboles, leurs uniformes à la con, et puis leurs soi-disant valeurs, alors que ce sont juste des bouchers, en fait. Hein. Et quand je dis boucher, j'ai aucun mépris pour la profession. Hein. C'est vraiment des gorées. Hein. C'est des gens qui s'habillent bien, mais
C'est du mal, c'est du mal avec un M majuscule, c'est-à-dire c'est ce besoin d'écraser l'autre, ce besoin de rouler dessus pour montrer sa supériorité, c'est détestable.
Oui.
D'ailleurs, ce qui est très très marrant dans Le Dictateur, et je trouve ça fabuleux, quoi, c'est les noms des pays, la Thomanie, la Bactérie, le Norlich, c'est génial, quoi. Tout est génial dans ce film.
Voilà. Ah oui. Tout, et puis c'est même la façon de filmer est très moderne. Je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça, toute la première partie avec la Première Guerre mondiale, puisque comme Hitler, Inkel a combattu pendant la Première Guerre mondiale. Tout ça, c'est
efficace. Complètement.
C'est vraiment génial.
D'ailleurs, j'aime beaucoup le nom qu'ils ont donné à Mussolini. C'est pas que Chaplin, c'est Benzino Napoleoni. Enfin bon, c'est bien joué. C'est génial. D'ailleurs, ça m'a fait penser. Il y a un autre film que j'aime beaucoup, enfin pour qui j'ai une tendresse. En fait, plus que je peux dire que c'est un chef-d'œuvre, mais j'ai une tendresse. C'est L'As des As, qui pour moi a quelques séquences comme ça. Et le début de qui se passe pendant la Première Guerre mondiale, on peut pas ne pas faire le parallèle avec Le Dictateur.
Oui. J'ai une grande tendresse pour ce film aussi, L'As des As. Ouais.
Voilà, c'est pas un grand film, mais j'ai une tendresse absolue.
Non, mais c'est un film, une vraie comédie d'aventure, quoi. Et pour moi, c'est un des derniers films que Belmondo a réalisé. Il y a peut-être eu les Morfalous après, mais avant de devenir le flic, c'était des fois parfois réussi, mais le flic qu'il a incarné pendant quasiment toutes les années 80. Et là, c'était vraiment du grand spectacle, en fait. Voilà. Ça, pour moi, ça vaut des films comme La Grande Vadrouille, sachant que La Grande Vadrouille, quand on le regarde dans le détail, c'est comme une succession de sketchs, mais le film n'est pas très très cohérent quand même, quoi. C'est un peu relou à certains moments. Vas-y.
Non, je reviens sur Le Dictateur, parce que il y a un truc qui est absolument génial dans le propos de Chaplin, mais je vais finir là-dessus. C'est que à aucun moment on parle de nazisme. À aucun moment on parle d'Hitler, à aucun moment on voit de croix gammée, tout est suggéré. Mais à aucun moment on doute du propos, en fait. On sait exactement de quoi il parle. Quoi.
Oui. Oui. Ben non, et puis c'est. Comme tu dis, c'est un moment où tout le monde disait, après coup, après la guerre, beaucoup de choses ont été oubliées et beaucoup d'excuses tenaient au fait qu'on ne savait pas. Et quand on voit le film de commande de Charlie Chaplin, on peut avoir des doutes. Voilà. Tellement lui, il a visé juste au tout début du conflit.
Mais il, a, Il a payé cher ce film, hein, puisque enfin, dans l'après-guerre, il a été, Charlie Chaplin a été accusé de sympathie pour le communisme à cause de ce film-là. Enfin, dans les États-Unis du macartisme, le caractère politique du film lui est revenu dans la tête, quoi. Enfin, c'est là où on se dit, c'est enfin, un monde un peu fou quand même.
Oui.
Mais les lanceurs d'alerte sont toujours pris pour cible, hein, c'est bien connu. Hein. Bon, ouais. Charlie Chaplin, président. Allez.
C'est ça.
Cher ami, je vois l'heure qui défile et je me dis
Oui.
qu'on arrive à presque l'heure de la fin de cette émission. Le CSA ne pourra pas nous accuser de faire le prosélytisme pour un candidat ou pour l'autre. Tant mieux. Mais malgré tout, notre temps de parole va bientôt être écoulé.
Oui, c'est ça. Donc moi, il y a quelques autres, il y a plein de films avec des présidents.
Il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup. Bon, il y en a un comme ça que j'aime bien, c'est Le Chacal. Je vais pas
Oui.
m'étendre dessus. Il y a aussi des choses que j'aime bien, comme Une nuit au musée, qui est capable de parler de l'histoire, mais de façon très subjective. Hein, c'est pour les enfants, avec un personnage comme qui est rendu sympathique, qui n'était pas forcément très sympathique, mais qui est rendu sympathique parce qu'il est joué par Robin Williams, Theodore Roosevelt.
Robin
Hein.
Williams, je pourrais rendre sympathique n'importe quel personnage historique.
C'est pas faux, c'est pas faux. Et donc voilà. Après, on en voit bah, dans beaucoup de grands films de guerre américains, Pearl Harbor, qui est une merde innommable. Autrement, La mémoire de nos pères de Clint Eastwood.
Ah oui, tout à fait.
Voilà. Après,
Je garderai aussi Lincoln, voilà, vu un biopic vu par Spielberg.
oui, que j'avais trouvé assez ennuyeux quand même.
Oui, mais pas
Mais il y a
mal
Daniel
joué.
Day-Lewis, et
Voilà.
ça se refuse pas.
Ça.
Voilà. Et puis ben voilà, on peut conclure là-dessus. Après, il y a plein d'autres choses à regarder. Hein.
Voilà, la
C'est un
seule chose
vaste
qui
sujet.
manque.
C'est un peu dommage qu'en France, on n'y aille pas plus
Oui, mais en même
de
temps,
façon. Après, il y a des bons films qui sont comme. Moi, je trouve qu'il y a d'Orsay de Tavernier qui réussit, mais qui ne parle pas spécialement du président de la République.
Mais
Et
on n'a pas
puis, et on ne le voit
des.
pas spécialement. Et puis, autrement, L'exercice du pouvoir aussi, avec Olivier
Oui,
Gourmet,
tout
qui
à
est très
fait.
réussi. Qui sont un peu, je trouve, un peu des. Pas des ovnis, mais un peu des films à part, quand même.
Mais on va pas
Voilà.
se mentir, on n'a pas des présidents de la République qui envoient de l'épique, hein, voilà.
Oui,
Ça,
c'est pas faux.
ils envoient pas du rêve, quoi.
Oui, et puis c'est pas en faisant des photos en sweat mal rasé que ça va changer.
Oui, d'ailleurs, enfin, reprenons cette photo-là, elle est très intéressante, je l'avais dit, sur le plan du message, puisque ce sont les couleurs de Superman. Et
Oui.
c'est. Ah ouais, il n'y a pas de hasard. Eh bien, très cher ami,
Bon,
peut-être
bah,
un dernier morceau pour se quitter. Je vois notre programmateur musical qui s'impatiente là.
Bah, je suis pas sûr, je pense qu'on peut enchaîner directement avec la prochaine émission. Hein.
Ouais, mais c'est
Ça
pas une
doit
émission
être.
terrible, je crois. Hein. C'est quoi? C'est quand la musique est bof, c'est ça?
Non, ça
Non.
c'est une petite sélection musicale cinéma juste après. Et puis après, il y a quand la
Ah,
musique est bof.
d'accord. Ah
Mais
ouais.
là, tu vas me dire que c'est pas terrible. C'est vrai, le sujet de ce soir, c'est un film que franchement, qui a très mal vieilli, que j'aime pas du tout. C'est New York 97 de
Ah
Don
ouais, non,
Carpenter,
mais je suis pas sûr qu'il
avec
faille
une musique à
l'écouter,
chier.
celle-là. Non, tu peux
Voilà.
pas dire ça.
Ben non, je peux pas dire ça. Alors, je
C'est
dis
une
pas,
musique de
enfin.
John Carpenter.
Un John
Mais.
Carpenter,
Ah, puisque c'est ça, je reviendrai que le mois prochain.
enfin, ouais.
Bon, bah
bonne,
écoute,
euh,
bonne
bon,
émission.
bon, bonne émission. Ben, bonne, merci. Et puis, au mois prochain. Merci, Joël.
Merci Joël. J'espère que le mois prochain, on aura encore le droit de diffusion. Sait-on jamais?
Bon, ah, peut-être qu'on commencera par ici, Londres.
Ah, peut-être.
Non, on aura le droit. On aura le droit. Voilà.
Très bien,
En
on
espérant
fera.
que la jeunesse emmerde le Front National, quand même.
C'est
Hein.
ça, ouais.
Voilà.
Bah, il va falloir rediaboliser tout ça.
C'est ça. Et arrêter de leur servir la soupe. Quand on fait barrage, on fait barrage. On ne fait pas accélérateur. Voilà.
C'est ça.
On ne met pas
Bon.
d'Armanin à l'intérieur.
Attention, on va avoir des ennuis avec le CSA. Bon,
Oui,
pardon.
on arrête. C'est
On
l'Arcom
arrête.
maintenant.
C'est ça. Mais
Oui.
rediaboliser-les.
Bonne soirée à vous.
À ciao.
À bientôt. Salut.
Salut.